Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. La PMA pour toutes les femmes, c'est oui. La PMA post-mortem, c'est non. Les députés ont voté hier soir l'article 1er du projet de loi de bioéthique examiné en seconde lecture à l'Assemblée.
Plusieurs départements français s'ouvrent de la sécheresse et cette situation risque de se répéter souvent. L'occasion de revenir sur l'irrigation en agriculture, un sujet de discorde.
Au moins 212 défenseurs de l'environnement ont été tués l'an dernier dans le monde. Un record, principalement en Colombie et aux Philippines. Ce nombre n'est pas étonnant, estime l'association Les Amis de la Terre.
Les Britanniques lancent un grand plan contre l'obésité, facteur aggravant du nouveau coronavirus. Un plan porté personnellement par le Premier ministre Boris Johnson.
Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votants 96, exprimés 93, majorité 47, pour 66, contre 27. L'article premier est adopté.
L'Assemblée nationale a à nouveau voté hier soir l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est l'une des mesures phares du projet de loi de bioéthique débattu en deuxième lecture depuis lundi dans l'hémicycle. Un texte qui ne fait pas l'unanimité. Les divisions se cristallisent, notamment sur la question de la PMA post-mortem ou la possibilité pour une femme, quand son conjoint meurt, de poursuivre sa PMA. Le ministre de la Santé avait appelé à voter contre. La PMA post-mortem a donc été rejetée, Sophie Delpont.
À la sortie de l'hémicycle, Florence Grandjus, députée La République En Marche, ne comprend pas pourquoi son groupe a voté contre cet amendement.
Pour moi, c'est une incohérence dans cette loi, incohérence qui a été soulignée par le Conseil d'État également.
Donc vous n'êtes pas en accord.
Je suis très déçue et je ne suis pas du tout en accord.
Elle quitte précipitamment la salle des quatre colonnes, alors qu'un autre député salue, lui, ce résultat.
Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée nationale. Modem, comme l'a démontré ces débats avec une vingtaine de prises de parole, c'était des moments d'une rare dignité et d'une très grande richesse et profondeur de débat.
Le centriste Charles de Courson est consterné par le rejet de cet amendement.
C'est totalement inhumain. Enfin, je dirais, une femme qui perd son mari alors que déjà les embryons sont prêts à être implantés dans son utérus, à qui on dit « vous n'avez pas le droit », alors que dans le texte du gouvernement, une femme seule peut avoir accès à la PMA, c'est totalement absurde et aberrant. Hélas, le gouvernement est intervenu, a fait pression sur sa majorité. On a vu revenir des gens d'ailleurs qui n'y connaissaient absolument rien. Et le président du groupe qui était majoritaire est venu et on les a fait voter au canon. Hélas, voilà.
Même position chez Jean-Louis Touraine, député LREM, médecin et rapporteur de la loi bioéthique.
Donc je ne sais pas quelle est la cause ou la raison de ceux qui ne veulent pas entendre les arguments rationnels.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était opposé à cette mesure-là.
Oui, oui, surtout maintenant, beaucoup moins lorsqu'il était député.
C'est donc dans une ambiance électrique que l'examen du projet de loi doit se terminer demain soir.
L'État français devrait débloquer 600 millions d'euros pour aider les régions, selon nos informations. Une façon de compenser leurs dépenses pendant la crise sanitaire. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 8 heures. Une vague de chaleur s'abat en cette fin de semaine sur la France. Les températures atteindront 40 degrés par endroit, ce qui n'arrangera pas la sécheresse que connaît déjà le monde agricole. Les prairies censées nourrir les élevages manquent d'eau. Les pouvoirs publics ne se penchent pas véritablement sur la question de l'irrigation en agriculture. Pourtant, les sécheresses sont vouées à être de plus en plus fréquentes, Anne-Laure Chouin.
Le sud et le sud-ouest connaissent depuis longtemps des sécheresses récurrentes, mais ces dernières années, ce sont des terres d'élevage, Centre et Bourgogne notamment, qui connaissent des épisodes de sécheresse obligeant les éleveurs à acheter du fourrage pour leurs bêtes, faute de pouvoir les nourrir dans leurs prairies desséchées. Et chaque année, la FNSEA ou les jeunes agriculteurs mettent en avant la nécessité, selon eux, de pouvoir stocker l'eau qui tombe en hiver, parfois en abondance, afin de la réutiliser pour l'été. Et ce, grâce à des retenues d'eau. Cela paraît simple, mais quand il s'agit d'eau et de milieux naturels, c'est en réalité loin de l'être. Des retenues comme celle de Sivens ou de Caussade dans le sud-ouest ont parfois mené à des conflits violents entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement. Ces derniers font valoir qu'on ne stocke pas impunément de l'eau dans des milieux où la ressource est rare et doit être partagée. L'eau qui tombe du ciel, estime des associations comme France Nature Environnement, a bien d'autres vocations que d'aller irriguer les cultures, notamment celle de venir renflouer les nappes et les cours d'eau. Beaucoup de travaux ont été menés menées par les agences de l'eau et du ministère de l'Agriculture, qui font valoir qu'avec une concertation de tous les acteurs sur un territoire donné, on peut résoudre le problème de la sécheresse via des retenues. Mais d'autres outils existent, des pratiques agroécologiques moins gourmandes en irrigation ou la sélection de cultures résistantes à la sécheresse.
Ils ont été tués parce qu'ils militaient pour défendre l'environnement. 212 activistes sont morts l'an dernier dans le monde, un record déploré par l'ONG britannique Global Witness. Les meurtres se concentrent en Colombie et aux Philippines. Les mines et l'agro-industrie sont des sujets particulièrement sensibles. Mais les militants connaissent aussi des pressions en France, rappelle Cécile Marchand, porte-parole climat de l'association Les Amis de la Terre.
On sait que les violations des droits humains se démultiplient dans beaucoup de territoires et malheureusement on sait aussi que ces homicides c'est finalement un peu la face émergée de l'iceberg puisque à côté de ces 212 morts qui sont ceux qui ont été comptabilisés, donc en plus il y en a probablement plus, il y a aussi beaucoup de personnes qui subissent d'autres formes de répression et d'autres formes de violations des droits humains avec des techniques d'intimidation, des arrestations qui sont faites pour empêcher les personnes de parler. Et même en France, alors on ne peut pas mettre ça sur le même plan puisque on est loin d'avoir les mêmes techniques de répression qu'il peut y avoir dans des pays comme au Brésil ou en Ouganda. Par contre, effectivement, il y a des intimidations en France à l'encontre des militants écologistes et des défenseurs des droits. Par exemple, on peut citer la cellule Déméter, donc qui est une cellule montée par le gouvernement français actuellement, qui est censée faire un suivi et des enquêtes sur des militants qui se battent contre l'agriculture industrielle. Il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent et qui ont le courage de le faire et qui ont le courage de potentiellement prendre les risques qu'elles prennent aujourd'hui. Et nous, ça nous renforce encore plus dans notre détermination à se battre contre les multinationales qui sont responsables de ces violations-là et qui ont bien souvent leur siège dans les pays occidentaux.
Cécile Marchand de l'association Les Amis de la Terre. La barre des 90 000 morts liées au coronavirus est désormais franchie. Au Brésil, les États-Unis comptent plus de 150 000 victimes depuis le début de la pandémie. L'un des facteurs de comorbidité avec la Covid-19 est l'obésité. Alors la Grande-Bretagne a lancé cette semaine un plan pour lutter contre. Les publicités pour la malbouffe seront interdites avant 21h à la télévision. Les calories seront détaillées dans les restaurants. Et il sera par exemple interdit de placer des aliments trop gras, trop sucrés à la caisse des supermarchés où l'on peut être tenté. Un plan que Boris Johnson est déterminé à mettre en œuvre au Anna Favenec.
Sur une vidéo diffusée lundi sur Internet, on voit le Premier ministre britannique, chemise cintrée, avec son chien dans un décor verdoyant, vanter les mérites de son footing matinal. Ce qu'il y a de bien dans le fait de commencer la journée en courant, c'est qu'ensuite, rien ne peut arriver de pire, plaisante-t-il. Plus sérieusement, Boris Johnson rappelle que lorsqu'il a été hospitalisé en soins intensifs pendant 3 jours en avril pour cause de Covid, il pesait beaucoup trop lourd. Un épisode personnel qui a fait influer la position de Boris Johnson sur la lutte contre l'obésité. Le Premier ministre s'était toujours défendu de materner ses administrés. Il porte aujourd'hui un plan chiffré par le Guardian à 11 millions d'euros, qu'on peut résumé en 2 axes, inciter à manger équilibré et à faire du sport.
Si ça marchait, on le saurait.
Jean-Pierre Poulain est sociologue, professeur titulaire d'une chaire aux universités de Toulouse et de Kuala Lumpur sur l'alimentation, la culture et la santé.
Il y a tout un ensemble de facteurs, notamment en Angleterre, quand on analyse la façon dont l'obésité s'est développée en bas de l'échelle sociale, alors même que concomitamment, on avait une dégradation des contextes de travail, avec une dérégulation de la protection sociale, avec des gens qui habitaient de plus en plus loin des lieux où ils travaillaient, étaient dans le bas de l'échelle sociale, obligés parfois d'avoir 2 emplois, n'avaient plus le temps de cuisiner, qui sont des éléments qui sont pas déterminé par la volonté des acteurs.
Au Royaume-Uni, près de 2/3 des adultes et 1/3 des enfants de 10 ans sont en surpoids.
Oana Favenec. En début d'après-midi, la NASA lancera son robot mobile Perseverance vers Mars. Il est conçu pour découvrir les traces des anciens microbes de la planète il y a 3 milliards d'années. Si tout va bien, il devrait arriver le 18 février 2021. La météo, aujourd'hui très chaude et ensoleillée en France. Comptez cet après-midi 29 degrés à Brest, 32 à Strasbourg, 33 à Paris, 38 à Lyon, 39 à Bordeaux et jusqu'à 40 degrés à Mont-de-Marsan. Chloé.
Merci Margot Delpierre, il est 7h10.